Sonobook présente, avec l'autorisation des éditions Albin Michel, Tout est fatal, de Stephen King. Nouvelle traduite par William Olivier Desmond. Interprétée par Frédéric Knepp. Pour Shane Leonard. Comment j'ai procédé? En prenant tous les piques d'un jeu de cartes, plus un joker. As plus 3 égale 1 plus 13. Joker égale 14. J'ai mélangé les cartes et je les ai distribuées. L'ordre dans lequel elles sont sorties est devenu l'ordre dans lequel elles sont publiées. La numérotation étant basé sur la liste que m'a envoyée l'éditeur. Et ce système a créé un équilibre satisfaisant entre les histoires littéraires et les histoires marrantes. J'ai également ajouté une petite note explicative avant ou après chacune, selon ce qui me semblait convenir le mieux. Prochain recueil de nouvelles, sélection par le tarot. Introduction. De la pratique d'un art presque perdu. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de m'étendre sur les joies de l'écriture et, au stade où j'en suis, je n'éprouve pas le besoin de réchauffer un plat déjà servi plusieurs fois. J'ai cependant un aveu à faire. Je prends un plaisir quelque peu pervers d'amateur aux à côté de mon gagne-pain. J'aime bien jouer à l'idiot, faire de la pollinisation croisée médiatique et battre le rappel. J'ai essayé d'écrire des romans visuels. La tempête du siècle, Rose Red, des feuilletons, La ligne verte, et des feuilletons sur Internet, The Plant. La question n'est pas de faire de l'argent, ni même plus précisément, de créer de nouveaux marchés. Elle est de tenter de voir l'art, l'acte et la technique de l'écrit appliqués de différentes manières, histoire d'en rafraîchir les procédés et de faire que les résultats, les histoires autrement dit, soient aussi pimpants que possible. J'avais commencé par écrire « de faire que les résultats soient nouveaux » dans la phrase précédente, mais je l'ai effacé par souci d'honnêteté. Parce qu'enfin, mes bons amis, qui pourrais-je encore abuser au bout de tant d'années, sinon moi-même? J'ai vendu ma première nouvelle alors que j'avais 21 ans et que j'étais étudiant. J'en compte aujourd'hui 54, et il en est passé des paquets de mots dans l'ordinateur traitement de texte en matière organique d'environ 1 kg sur lequel je pose ma casquette des Red Sox. Le fait d'écrire des histoires n'a rien de nouveau pour moi depuis longtemps, mais cela ne signifie pas qu'il ait perdu de sa fascination. Si je ne trouve pas un moyen de les rendre toujours aussi fraîches et intéressantes, je vais devenir vieux et me barber le temps de le dire. Je ne tiens pas à ce que cela arrive, parce que je refuse de tromper les gens qui lisent mes trucs, autrement dit, vous, mon fidèle lecteur, et je refuse de me tromper moi-même. On est ensemble sur le coup, en fin de compte. C'est un rendez-vous. On devrait se marrer, on devrait danser. C'est en ayant ceci présent à l'esprit que j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Ma femme et moi possédons deux stations de radio. W Zone AM, consacré au sport, et W Kit FM, consacré au rock classique, que nous appelons le rock de Bangor. Pas facile de faire de la radio de nos jours, en particulier sur un marché aussi étroit que celui de Bangor. Trop de stations, pas assez d'auditeurs. Nous avons le country contemporain, le country classique, les bons vieux airs d'autrefois, les bons vieux airs classiques d'autrefois, Rush, Limbo, Paul Harvey et Kazakazem. Les stations Steve et Tabby King sont dans le rouge depuis je ne sais combien d'années. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour que ça me casse les pieds. Je n'aime pas perdre, voyez-vous, et si nous arrivons bien en tête dans les ARBS, autrement dit les Arbitron Ratings, l'équivalent de l'Audimat pour la télé, nous n'en sommes pas moins déficitaires à la fin de l'année. On m'a expliqué que la publicité ne génère tout simplement pas assez de bénéfices sur le marché de Bangor, que le gâteau a été divisé en beaucoup trop de parts. J'ai donc eu une idée. Je me suis dit, écrivons une pièce radiophonique, un peu dans le genre de celle que j'écoutais avec mon grand-père à l'époque où je grandissais et où lui se ratatinait à Durham, dans le Maine. Tiens, une pièce pour Halloween, bon sang. Je me souvenais de la célèbre, mais infâme, adaptation de La Guerre des Mondes, faite par Orson Welles pour Halloween avant la guerre. Le coup de génie de Welles, coup de génie particulièrement brillant, avait été de présenter l'histoire de l'invasion de la Terre par des extraterrestres, imaginée par son presque homonyme H.G. Wells, sous forme de bulletins d'information et de reportages radiophoniques. Le truc a marché, tellement bien marché même, qu'il a déclenché une panique générale et que Wells, Orson, pas H.G., fut contraint de présenter ses excuses la semaine suivante sur la station qui avait diffusé son adaptation. Je parie qu'il a dû le faire avec un sourire en coin. Je sais que j'aurais souri en coin si j'avais réussi à inventer un mensonge aussi persuasif et puissant. Je me suis donc dit que ce qui avait marché pour Orson Welles devrait marcher pour moi. Au lieu de commencer par de la musique de danse, comme avait commencé l'émission de Welles, la mienne attaquerait avec Ted Nugent, braillant sur Cat Scratch Fever. Puis, un speaker viendrait l'interrompre, quelqu'un de connu sur la station. D'ailleurs, on ne dit même plus DJ ou encore moins speaker de nos jours, mais présentateur. Ici, Gigi West, service information de WKIT, dirait-il. Je me trouve dans le centre de Bangor, où un millier de personnes se bousculent dans Pickering Square pour voir un objet argenté en forme de disque descendre vers le sol. Attendez une minute, je vais tendre mon micro, vous allez peut-être l'entendre. Et hop, rien qu'avec ça, c'était parti. Je pourrais me servir du matos de nos studios pour créer les effets sonores, des acteurs locaux pour tenir les rôles, et le meilleur, vous savez ce que c'était le meilleur dans cette histoire? Il suffirait d'enregistrer le résultat et de le revendre à toutes les stations locales du pays. Les revenus que nous en tirerions, mon comptable était on ne peut plus d'accord, deviendraient des revenus stations de radio et non des revenus écriture. Voilà comment j'imaginais les choses. C'était un moyen de combler le déficit dû au manque de publicité, et à la fin de l'année, la station serait peut-être même sortie du rouge et ferait des bénéfices. Cette idée de pièce radiophonique était excitante. Tout comme était excitante la perspective d'aider, grâce à mes aptitudes d'écrivain, la station de radio à renouer avec le profit. Que s'est-il passé, finalement? Je n'y suis pas arrivé. Voilà tout. Je me suis escrimé, pourtant, mais tout ce que j'écrivais retombait dans la narration. Ce n'était pas une pièce, pas le genre de choses qu'on voit se dérouler dans sa tête. Ceux qui sont en âge d'avoir entendu autrefois des programmes de radio comme Suspense ou Gunsmoke comprendront ce que je veux dire. Ça ressemblait davantage à un livre enregistré. Je suis sûr que l'on aurait tout de même pu finir par revendre le programme et gagner un peu d'argent. Mais j'étais certain que ma pièce radiophonique ne serait pas un grand succès. Elle était barbante. J'aurais trompé l'auditeur. C'était raté, et je ne savais pas comment remettre ça sur pied. Écrire des pièces pour la radio, me semble-t-il, est un art qui s'est perdu. Nous ne savons plus voir avec les oreilles, aptitude que nous avions encore naguère. Je me rappelle pourtant avoir entendu je ne sais quel bruiteur cogner de ses articulations contre un bout de bois creux, et avoir vu aussi clairement que le paysage qu'encadre ma fenêtre, Matt Dillon s'avançait vers le bar du Long Brown Saloon dans ses bottes poussiéreuses. Mais c'est fini. Cette époque est révolue. L'écriture de pièces dans le style shakespearien, des comédies et des tragédies qui fonctionnent en vers blancs, est-elle aussi un art perdu? Les gens vont encore voir des productions universitaires de Hamlet ou du Roi Lear, mais soyons honnêtes. Ces pièces tiendraient-elles la route à la télé face à des productions comme Le Maillon Faible ou Survivor 5 Stranded on the Moon? Même avec Brad Pitt dans le rôle de Hamlet et Jack Nicholson dans celui de Polonius. Et si les gens vont encore voir jouer des choses aussi extravagantes que Le Roi Lear ou Macbeth, le plaisir que procure cette forme d'art est à des années-lumière de la faculté de créer de nouveaux échantillons de la dite forme d'art. De temps en temps, quelqu'un essaie bien de monter une production en vers blanc à Broadway ou dans quelque théâtre d'avant-garde. Ça ne marche jamais. La poésie n'est pas un art perdu. La poésie se porte mieux que jamais. Vous y trouvez, bien entendu, la bande de crétins habituels ou d'idiots, comme aimait à le dire d'elle-même l'équipe du magazine Mad, planquée dans les parages, bande faite de gens qui confondent prétention et génie, mais aussi d'authentiques praticiens de cet art. Consultez un peu les revues littéraires si vous doutez de ce que je vous dis. Pour 5 ou 6 poèmes nuls que vous lirez, vous en trouverez 1 ou 2 de bons. Et croyez-moi, comme rapport bonne cam, Camelot, c'est tout à fait acceptable. La nouvelle n'est pas non plus un art perdu, mais je suis prêt à défendre l'idée qu'il est bien plus près de disparaître dans les poubelles de l'histoire que la poésie. Lorsque j'ai vendu ma première nouvelle en cette délicieusement antique année 1968, je déplorais déjà l'effritement régulier de ce marché. Les magazines populaires, les pulp, avaient disparu, les digest allaient disparaître et les hebdos comme The Saturday Evening Post étaient en voie d'extinction. Depuis, j'ai assisté au rétrécissement régulier de ce marché. Dieu bénisse les petites revues où les écrivains en herbe peuvent publier en échange de quelques exemplaires d'auteurs. Dieu bénisse les rédacs-chefs qui continuent à éplucher tout ce qu'on leur envoie, en particulier à la suite de la grande panique à l'anthrax de l'année 2001. Et Dieu bénisse les éditeurs qui continuent à donner le feu vert à la publication d'anthologies d'histoires originales. Mais Dieu ne peut pas passer toute sa journée, ni même sa pause café, à bénir ces gens. 10 minutes ou un quart d'heure devraient y suffire. Ils ne sont pas très nombreux et il en disparaît 1 ou 2 chaque année. Les revues faites avant tout de nouvelles, jadis point de mire des écrivains débutants, y compris de moi-même, bien que n'y ayant jamais publié, ont à présent disparu. Amazing Stories a disparu, en dépit d'efforts répétés pour la relancer. Les revues de science-fiction intéressantes comme Vertex ont aussi disparu, tout comme, évidemment, les magazines d'horreur tels que Creepy et Eerie, et même depuis longtemps dans le cas de ces merveilleux périodiques. De temps en temps, un inconscient tente de les faire revivre. Pendant que j'écris ceci, Weird Tales connaît les affres d'une telle tentative de renaissance. La plupart du temps, c'est un échec. C'est comme ces pièces de théâtre en verre blanc, celles dont la dernière représentation suit de 24 heures la première. Quand de telles choses ont disparu, c'est pour de bon. On ne peut les ressusciter. Si j'ai continué à écrire des nouvelles, c'est en partie parce que des idées me venaient de temps en temps, des idées merveilleusement compactes, n'exigeant que 3000 mots ou 9000 mots, 15000 au grand maximum, et en partie parce que c'était affirmé au moins à mes propres yeux que j'en étais encore capable, contrairement à ce que peuvent penser mes critiques les moins tendres. La nouvelle est en quelque sorte comme ces pièces uniques qu'on trouve dans certaines boutiques d'artisans. À condition d'être patient et de bien vouloir attendre qu'il ait donné son dernier coup de burin dans son atelier. Rien n'exige cependant que les nouvelles soient diffusées commercialement par la bonne vieille méthode de papa, tout simplement parce qu'elles ne sont pas créées de cette façon. De même que rien n'exige de partir du principe, comme pas mal d'abrutis de la critique semblent l'avoir fait, qu'une œuvre de fiction serait forcément contaminée ou galvaudée par la manière dont elle est mise sur le marché. C'est à un tour sur le bolide que je pense ici. Ce fut certainement mon expérience la plus curieuse en matière de commercialisation d'une de mes œuvres et son histoire illustre bien ce que j'essaie de démontrer. Qu'il est difficile de faire renaître un art perdu. Qu'une fois passé un certain stade, l'extinction est probablement inévitable, mais qu'une nouvelle façon d'aborder l'écriture, son aspect commercial en l'occurrence, peut parfois revigorer l'ensemble. Un tour sur le bolide a été écrit dans la foulée d'écriture, alors que j'ai récupéré après un accident qui m'avait laissé dans un état où mes souffrances physiques étaient pratiquement permanentes. Écrire émoussait le plus dur de ces souffrances. Écrire était, et est encore, le meilleur antalgique de mon arsenal très limité. L'histoire que je voulais raconter était la simplicité même et ne se voulait rien de plus en vérité qu'une histoire de fantôme pour feu de camp, l'autostoppeur qui se fait ramasser par un mort. Pendant que je mettais mon histoire au point dans le monde irréel de mon imagination, une bulle spéculative enflait dans le monde tout aussi irréel du commerce en ligne. Et dans cette bulle, il y avait ce qu'on appelle le livre électronique, bidule qui devait signer aux yeux de certains l'arrêt de mort du livre tel qu'on l'avait toujours connu, à savoir un objet fait de papier, de colle et de reliure dont il fallait tourner les pages à la main, pages qui parfois se détachaient lorsque la colle n'était pas bonne ou que la reliure avait un peu trop vécu. Au début de l'année 2000, on parla beaucoup d'un essai d'Arthur C. Clarke publié uniquement dans le cyberespace. Il était fort bref, cependant, comme la bise obligatoire à la petite sœur, m'étais-je dit lorsque je l'avais lu. Ma nouvelle, une fois terminée, était plutôt longue. Suzanne Moldo, ma directrice littéraire chez Scribner, qu'en tant que fan de X-Files, j'appelle Agent Moldo, devinez pourquoi, poussé par Ralph Vicinanza, me téléphona un jour pour me demander si ça ne m'amuserait pas de faire une tentative sur le marché électronique. Je lui envoyai donc Bolide, et à nous trois, Suzanne, Scribner et moi, nous bâtîmes le rappel publicitaire sur cette nouveauté dans l'édition. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont téléchargé la nouvelle et j'ai fini par me faire une quantité gênante de fric. Sauf que c'est un foutu mensonge. Ça ne me gênait pas du tout. Jusqu'aux droits de retransmission radio qui atteignirent une somme totalement ridicule, plus de 100 000 $. Suis-je en train de me vanter? De vous prouver que j'ai le cul bordé de médailles? Oui, d'une certaine manière. Mais je dois aussi vous dire que un tour sur le bolide m'a quasiment rendu cinglé. D'habitude, quand je me retrouve dans l'une de ces salles d'attente d'aéroport au décor futuristico-délirant, les autres passagers se contentent de m'ignorer. Ils sont trop occupés à raconter n'importe quoi dans leur portable ou à conclure des affaires au bar. Ce qui me va très bien. De temps en temps, l'un ou l'autre vient me demander de lui signer une serviette en papier pour sa femme. Laquelle, comme tiennent à me le faire savoir ces types en costard impec, toujours équipés d'un porte-document impec, a bien entendu lu tous mes livres. Eux, en revanche, aucun. Ils tiennent aussi à ce que je le sache. Trop de boulot. Ils ont peut-être lu deux ou trois trucs, genre « comment réussir en affaires », mais c'est à peu près tout. Faut que je me grouille, faut que je fonce, j'ai rencard avec une crise cardiaque dans 4 ans, et je veux être sûr d'être là, avec tous mes fichiers bien rangés dans mon PC, quand ça arrivera. Après la publication de Bolide, en tant que e-livre, couverture logo de Scribner et tout, tout changea. Je fus assailli dans les aéroports. Je fus même assailli dans la salle d'attente de l'Amtrak à Boston. On m'arrêtait dans la rue. Pendant un certain temps, je renonçais aux joies des apparitions télévisées au rythme effréné de 3 émissions par jour. Je voulais faire une exception pour Springer, mais Jerry n'a jamais appelé. J'eus même les honneurs de la couverture de Time. Quant au New York Times, il pontifia longuement sur le succès apparent de « Un tour sur le bolide » et l'échec apparent de son cyber-successeur « The Plant ». Seigneur, je me suis même retrouvé en première page du Wall Street Journal. J'étais devenu, bien malgré moi, un oracle. Et qu'est-ce qui me rendait fou? Qu'est-ce qui faisait paraître toute l'entreprise aussi futile? Eh bien, que personne ne s'intéressait à l'histoire. Bon sang, on ne posait même pas la moindre question sur l'histoire que je racontais. Et vous voulez que je vous dise? C'est une fort bonne histoire, si je peux me permettre de l'affirmer moi-même. Simple, mais sympa. De la belle ouvrage. Si elle vous oblige à couper la télé, en ce qui me concerne, ça veut dire que cette nouvelle, ou n'importe laquelle de ce recueil, est un succès total. Mais après la sortie de Bolide, tous les gens dans le business du livre n'avaient qu'une question à la bouche. Alors comment ça marche? Ça se vend bien? Comment leur répondre? Que je n'en avais strictement rien à foutre du succès commercial, que ce qui m'intéressait était l'effet que ma nouvelle produisait sur l'âme et le cœur de mon lecteur. Était-ce une réussite? Un échec? Les captivait-elle? provoquait-elle en eux ce petit frisson qui est la raison d'être des histoires de fantômes? Je pris conscience d'être en face d'un nouvel exemple de décrue créative, de voir un art faisant un pas de plus sur ce qui était peut-être la route de l'extinction. Il y a quelque chose de bizarrement décadent à paraître en page de couverture d'un grand magazine simplement pour avoir utilisé une autre voie conduisant au marché. Et il y a quelque chose d'encore plus bizarre à se rendre compte que tous ces lecteurs avaient peut-être été davantage intéressés par la nouveauté de l'emballage électronique que par le produit que celui-ci contenait. Si j'aimerais savoir combien de ceux qui ont téléchargé un tour sur le bolide l'ont lu, en réalité, pas vraiment. J'aurais trop peur d'être très déçu. La publication électronique représente peut-être l'avenir. De ça, je me soucie comme d'un pet de lapin, croyez-moi. Pour moi, emprunter cette voie n'était simplement qu'une manière comme une autre de rester pleinement dans le coup pour ce qui est de raconter des histoires et de les mettre à la disposition du plus grand nombre de personnes possible. Ce livre va probablement se retrouver sur la liste des best-sellers pendant quelque temps. De ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais si vous le voyez y figurer, demandez-vous donc combien d'autres recueils de nouvelles vous avez vus sur la liste des best-sellers au cours d'une année, et pendant combien de temps les éditeurs vont accepter de publier des livres qui n'intéressent guère les lecteurs. À mes yeux, cependant, il n'est peu de plaisir aussi grand que de s'asseoir dans son fauteuil préféré par une nuit froide, un thé bien chaud à portée de la main, et de lire une histoire d'une seule traite pendant que le vent se déchaîne à l'extérieur. Les écrire n'est pas aussi agréable. Il n'y a que deux des nouvelles de ce recueil, « Tout est fatal » et « LT et sa théorie des AF », à ne pas m'avoir demandé des efforts aussi considérables que pourrait le laisser croire la relative minceur du résultat. Je pense cependant avoir réussi à garder tout mon savoir-faire en la matière, avant tout parce que je refuse de laisser passer une année sans avoir écrit au moins une ou deux nouvelles. Pas pour l'argent, pas même par amour de la chose, mais pour payer mon dû en quelque sorte. Parce que si l'on souhaite écrire des nouvelles, il faut faire un peu plus que penser à en écrire. Ce n'est pas comme la bicyclette qu'on apprend une fois pour toutes. Plutôt comme la gymnastique. La technique ne s'use que si on ne s'en sert pas. Les voir rassemblés ici est un grand plaisir pour moi. J'espère que c'en sera un pour vous aussi. Vous pouvez me le faire savoir par le biais de stephenking.com. Vous pouvez même faire autre chose pour moi, et surtout pour vous, acheter d'autres recueils semblables comme Sam the Cat de Matthew Clam ou encore The Hotel Eden de Ron Carlson. Ce sont deux des bons auteurs du genre parmi d'autres, et même si, officiellement, nous sommes au XXIe siècle, ils pratiquent la nouvelle toujours de la bonne vieille façon, en écrivant un mot après l'autre. Si vous êtes sensible à cette question, soutenez-les. Et la meilleure façon de les soutenir n'a pas vraiment changé non plus, lisez-les. J'aimerais remercier quelques-unes des personnes qui ont lu les miennes. Bill Buford, du New Yorker, Suzanne Moldo, de chez Scribner, Chuck Verril, qui a relu tant de mes livres au cours de toutes ces années, Ralph Vicinanza, Arthur Green, Gordon Van Gelder et Ed Fairman, de Magazine of Fantasy and Science Fiction, Nye Wilden, de Cavalier, et le regretté Robert Lowndes, qui a acheté la première de ses nouvelles en 1968. Mais aussi, et avant tout, ma femme, Tabitha, qui demeure ma fidèle lectrice préférée. Toutes ces personnes ont œuvré et continuent à œuvrer, comme moi, pour que la nouvelle ne devienne pas un art perdu. En achetant ce recueil, choisissant ainsi de subventionner cet art, et en le lisant, vous œuvrez aussi en sa faveur. Surtout vous, fidèle lecteur. Toujours vôtre, Stephen King, Bangor, Maine, 11 décembre 2001.